Chers amis, nous allons rouvrir le livre de Job dans l'Ancien Testament, première partie de la Bible, à peu près au milieu de l'Ancien Testament, un peu avant les psaumes. Et nous ouvrons ce livre au chapitre 19 dont nous avons déjà lu hier une partie, hier soir. Nous en prolongeons la lecture en reprenant à partir du verset 23 et jusqu'au verset 29. Pour les amis qui n'étaient pas là hier soir, et ce sera un rappel pour ceux qui étaient présents, la première partie de ce chapitre 19 consiste en lamentation angoissée et indignée à la fois de Job au paroxysme de sa souffrance. Et il décrit dans des termes poignants les divers aspects de cette souffrance dans les versets qui précèdent notre lecture, c'est-à-dire jusqu'au verset 22, avec ces deux « pourquoi ?»« Pourquoi ?» du verset 22. Je lis donc au verset 23 « Oh, je voudrais que mes paroles soient écrites, qu'elles soient écrites dans un livre. Je voudrais qu'avec un burin de fer et avec du plomb, elle soit pour toujours gravée dans le roc. Mais je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu, je le verrai et il me sera favorable. Mes yeux le verront, et non ceux d'un autre. Mon âme languit d'attente au-dedans de moi. » Vous direz alors, pourquoi le poursuivions-nous? Car la justice de ma cause sera reconnue. Craignez pour vous le glaive. Les châtiments par le glaive sont terribles. Et sachez qu'il y a un jugement. Nous allons dans la deuxième partie de la Bible, le Nouveau Testament, vers l'épître de Paul aux Romains, donc après les quatre évangiles et le livre des Actes, au tout début de l'épître aux Romains, au chapitre 1er, Romains chapitre 1er, nous allons lire ce qui peut être considéré comme le passage le plus sombre de cette magistrale épître adressée aux croyants de la capitale de cet immense empire romain, mais au-delà d'eux, à nous-mêmes aujourd'hui. Romains chapitre 1er, à partir du verset 18, nous est dit que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété, toute absence de respect et d'amour à l'endroit de Dieu, et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive. Car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste, est visible, évident pour eux, Dieu le leur ayant fait connaître. En effet, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle, et sa divinité, sa nature divine, se voit comme à l'œil nu depuis la création du monde quand on les considère dans ses ouvrages. Ils sont donc inexcusables, car ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu, ils ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur dépourvu d'intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire, la beauté, les perfections du Dieu incorruptible en images représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes, des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté, selon les désirs coupables de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps, eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Oui, c'est la vérité. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature, et de même les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé, pour commettre des choses indignes, étant remplis de toute espèce d'injustice et de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore, ils approuvent ceux qui les font. Hier soir, c'est l'histoire dramatique de Job qui a servi d'introduction à notre réflexion sur ce thème tellement stratégique, tellement important, l'homme face à la souffrance. Et nous avons, dans un premier temps, constaté que le drame, parce que c'est un récit, ce n'est pas un mythe, ce n'est pas une légende, ce n'est pas simplement un texte poétique adressé pour chatouiller nos oreilles. Ce drame de Job, passant d'une sorte de bonheur à son zénith, au malheur, à ce qu'on pourrait appeler son nadir, c'est-à-dire le point où le soleil est le plus bas, cette histoire dramatique qui occupe le sixième livre de toute la Bible par son importance, par sa longueur, 42 chapitres, cette histoire s'est souvent renouvelée depuis, pas toujours avec la même acuité, parfois même avec plus d'acuité encore. Et nous avons dit qu'il y a une somme de souffrance impressionnante dans le monde moderne. Ce qui nous a conduit à faire jusqu'ici plusieurs remarques préliminaires importantes, puisque nous avons décidé de construire ensemble cet édifice de réflexion sur ce sujet aussi important. Et les premières pierres que nous posions hier soir, les voici très brièvement résumées, simplement dans les têtes de paragraphes qui sont sous mes yeux, puisque nous avons souligné tout d'abord que personne ne traverse la vie sans souffrir d'une manière ou d'une autre. Nous sommes tous concernés. C'est ce que l'un des compagnons de Job lui dira. L'homme naît pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Et puis nous avons remarqué que même lorsque nous connaissons ce privilège de moments radieux, de ces zones de calme où souffle sur nos vies un doux zéphyr bien agréable que nous voudrions tant voir se prolonger des années durant, eh bien ce calme est souvent troublé par la souffrance des autres. Cette souffrance des autres qui nous interpelle, qui nous pose des questions, cette souffrance d'autrui qui engendre une souffrance en nous parce qu'elle est insécurisante. Elle est menaçante, angoissante. Et une question nous ronge dans ces moments-là. Mais si la même chose venait à m'arriver, ne serais-je pas secrètement encore frappé du même mal? Voilà aussi, et c'était là la troisième remarque préliminaire, voilà aussi pourquoi la souffrance nous révolte, généralement. Pourquoi elle amène nos pourquoi? Elle nous gêne parce que nous ne la comprenons pas. Il y a toute une part de mystère. Elle est injuste, ou du moins la trouvons-nous ainsi. Brutale parfois, discriminatoire, arbitraire. Elle frappe comme un souverain despote qui, dans son royaume, se plaît au sadisme. Et c'est ce qui nous fait murmurer, ou parfois crier, « Mais si Dieu existait, il ne permettrait pas que... » Si Dieu est amour, alors pourquoi tant de souffrance? Et nous remarquions hier soir qu'au-delà de la légitimité d'une remarque de ce genre, de ce questionnement ardent, de cette sorte de rébellion dans ces questions, se cache le risque de se livrer au mal. C'est aussi ce qui figure dans le livre de Job, chapitre 36, verset 21. « Garde-toi de te livrer au mal, car la souffrance t'y dispose. » Et cela nous a directement conduit à cette quatrième remarque, c'est que le drame de notre temps consiste dans l'ignorance des significations possibles de la souffrance. Une lutte, je dirais à mort, systématique, est engagée contre la souffrance, car elle est systématiquement considérée comme une ennemie, comme une intruse. Il faut, dans notre monde moderne, y échapper à tout prix, parce qu'elle ne posséderait aucune vertu en elle-même. Alors nous avons développé les dangers d'une telle attitude. Dans un certain nombre de domaines, que ce soit au niveau du faux pouvoir de l'argent, de l'automatisation à l'extrême, des droits acquis, de la pédagogie non directive, toutes ces avenues de facilité apparente qui débouchent, hélas, sur des zones de brousse, magnifiques avenues largement éclairées et qui, subitement, vous amènent dans des endroits de plus grande souffrance encore, tant il est vrai que dans sa lutte à mort contre la souffrance, l'homme se crée constamment de nouvelles souffrances. C'est une lutte infernale, jamais finie, contre l'hydre de Lerne gigantesque dont les têtes repoussent plus hideuses, à peine ont-elles été coupées. Et ceci nous a conduit à évoquer le christianisme dans ses rapports avec la souffrance. Christianisme traditionnel, dominant, sociologique. Ce christianisme qui a sa part de responsabilité dans l'incompréhension du message de la souffrance. Parce qu'il a succombé à la tentation de tordre le message des Écritures. Quant au caractère méritoire de la souffrance qui pourrait être offerte comme un sacrifice de bonne odeur à un Dieu qui, sur la base de cette souffrance, vous offrirait un passeport gratuit pour le ciel. Ce ne sont pas les Écritures qui disent cela. Mais aussi, nous avons vu le salut parfois présenté comme une garantie anti-souffrance. La possibilité d'une guérison systématique de tous nos maux sur la base de la foi, équation garantie à 200%, sauf pour les incrédules, paraîtrait-il. Comme si derrière chaque maladie se profilait le visage hideux du diable et des démons. Et nous terminions hier soir par une note heureuse, apaisante, encourageante, pour souligner que la réalité d'un christianisme biblique, authentique, reposant vraiment sur l'enseignement de la Bible dans son ensemble, eh bien la réalité d'un authentique christianisme biblique est tout autre. Et nous avons vu que la vie avec Christ n'a rien d'un opium, d'une drogue. Nous l'avons comparé au bouddhisme et à son approche de la douleur, à sa fuite devant toutes les formes de douleur, jusque dans cette fuite suprême qui s'appellerait le nirvana et qu'aucun homme en réalité sur la terre ne peut atteindre. Nous avons vu que la solution ne peut être non plus dans le fatalisme de l'islam, cette résignation devant toute souffrance acceptée simplement comme étant la volonté du Dieu suprême. Inch'Allah. Non, nous avons dit que la Bible était très réaliste et qu'elle nous présente les combats intérieurs très douloureux connus par les croyants. Parfois beaucoup plus douloureux que les combats de ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Tout d'abord parce que nous ne sommes pas, nous qui connaissons Jésus-Christ, enfermés dans une bulle d'air pur à 100%. Nous respirons le même oxygène, la même atmosphère. Nous vivons dans le même monde que tout un chacun. Nous sommes face aux mêmes pollutions. Mais que de surcroît, nous avons une conscience qui, en tout cas, devrait être beaucoup plus sensible que celle de nos contemporains, aiguisée qu'elle est par la parole de Dieu, par le travail de Christ habitant en nous, par le Saint-Esprit, par l'enseignement que nous recevons, par le côtoiement permanent de ceux et celles qui, comme nous, connaissent Jésus-Christ. Et puis, nous marchons à contre-courant. Nous sommes la cible des attaques particulières de ce que la Bible appelle la puissance des ténèbres, le monde démoniaque, la puissance satanique qui certes a été vaincue et définitivement vaincue à la croix, mais qui joue ses derniers coups dans cette partie d'échec où Dieu a déjà dit échec et mat, mais où il reste encore un petit bout de terrain à parcourir avant que cette défaite ne soit définitivement visible pour le cosmos tout entier. Alors nous avons pris toutes sortes d'exemples pour aboutir à cette remarque tellement importante. Ce qui fait la richesse de la vie avec Christ, ce n'est pas l'absence de souffrance, mais c'est la présence de Christ dans toutes nos circonstances. Même lorsque nous nous croyons abandonnés de lui, dans ces moments où Dieu veut nous apprendre encore plus la marche dans la confiance en sa parole. Le regard du disciple de Jésus-Christ sur la vie et sur la souffrance n'est pas un regard à court terme, mais un regard à long terme. Le disciple de Jésus-Christ sait que ses difficultés de tous ordres s'inscrivent dans un plan d'amour dont l'aboutissement est glorieux. Quelles que soient les circonstances que je vis aujourd'hui, Je sais que la perspective finale est fantastique. J'ai une espérance. J'ai plus qu'un espoir. J'ai une espérance dans mes difficultés. Et c'est à cause de cela que nous avons lu cette conclusion du chapitre 19, après avoir évoqué ce sommet, ce paroxysme de douleur dans la vie de Job, nous constatons que, subitement, il y a comme un basculement, comme un renversement de mentalité chez lui. Il change de regard et soudain s'écrie « Mais je sais, mais j'ai une certitude. » Mes amis, il y a 4000 ans de cela, cet homme qui avait si peu de lumière sur Dieu, comparé à toutes les lumières que nous avons, nous, aujourd'hui, cet homme pouvait pourtant s'exclamer « Mais je sais que mon Rédempteur est vivant. Je sais que j'ai quelqu'un qui m'a racheté. J'en discerne l'ombre dans ce brouillard de mon époque. Parce que les rayons glorieux de l'Évangile ne sont pas encore là. Mais je discerne, par ce Dieu que je sers, par ce qu'il dit à mon cœur, que j'ai un Rédempteur, que j'ai un racheteur, que quelqu'un m'a sauvé, que quelqu'un a payé pour moi, et je sais qu'il est vivant. Et que lui va avoir le dernier mot dans l'histoire humaine, parce qu'il se lèvera, lui, le dernier sur la terre. Quand ma peau sera détruite, il se lèvera. Après que ma peau aura été détruite, moi-même, je contemplerai Dieu, c'est-à-dire que je ne crois pas, moi, Job, à l'anéantissement. Je ne crois pas qu'après la mort, il y ait simplement le trou et la poussière. Je crois, moi, Job, 4000 ans avant vous, je crois à la résurrection corporelle qui va m'introduire dans la présence de ce Dieu que je connais pourtant si mal encore. Après que ma peau aura été détruite, moi-même je contemplerai Dieu, je pourrai le contempler, c'est quelque chose d'extraordinaire, parce qu'il me sera favorable. Parce qu'un événement se sera passé qui fera que je pourrai le voir face à face sans être anéanti immédiatement. Mes yeux le verront et non ceux d'un autre, mon âme languit d'attente au-dedans de moi. Mais voilà ce qui a été le soutien de Job au paroxysme de ses souffrances, répétons-le, alors que cet homme était abandonné de ses plus chers, qu'il était l'homme le plus solitaire de la terre. Après avoir été un homme exemple de solidarité envers ses semblables, il avait encore une espérance extraordinaire qui le faisait se raccrocher à la vie et refuser cette fuite dans le suicide de ceux qui n'ont aucun espoir, aucune espérance au-delà de cette terre. Quelqu'un écrit « Si justement, une fois croyant, nous avons beau naviguer au milieu des tempêtes, sur les hautes eaux du temps présent, non seulement nous savons qu'aucune vague ne peut nous engloutir, mais nous sommes assurés que chacune d'elles travaille à nous rapprocher du but de la course. » Je pense à ce missionnaire qui travaillait en Afrique, bien loin de sa patrie, et qui ce jour-là était debout devant la tombe où allait être ensevelie sa jeune épouse. Et bien sûr, tout le monde l'observait. Lorsque un villageois s'approchait de lui lui et de lui dire, mais il me semble que tu ne pleures pas. Mais tu perces l'horizon. Et ce missionnaire qui était un linguiste et qui travaillait à la traduction de la Bible dans la langue de la tribu dans laquelle il était installé, utilisa ce terme, cette expression « tu perces l'horizon » pour traduire le verbe « espérer » dans la Bible, faite dans le dialecte de cette tribu. Il perçait l'horizon. Job perçait l'horizon. Le disciple de Jésus-Christ perce l'horizon. Je pense à John Wesley, cet homme de Dieu qui a été utilisé par le Seigneur pour le bouleversement spirituel et social aussi, moral, de la Grande-Bretagne, et qui était tellement plein de joie, même juste avant de mourir à l'âge de 88 ans. Il s'est assis dans son lit, il a regardé ses proches qui pleuraient à ses côtés, et il a dit, mais ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est que Dieu est avec nous. Ce qu'il y a de plus merveilleux, c'est que Dieu est avec nous, qui est devenu la devise des missions méthodistes internationales. Par contraste, nous évoquions hier Mark Twain, cet humoriste américain qui n'a jamais voulu de Dieu dans sa vie, et qui peu à peu est devenu morose, fatigué de la vie, au point que peu de temps avant sa mort, il écrivit ceci, « Une myriade d'hommes sont nés, ils peinent, et suent, et se débattent. Ils se querellent, s'engueulent, et se battent. Ils se bousculent pour avoir le dessus sur les autres. La vieillesse les surprend, les infirmités surviennent. Ceux qu'ils aiment leur sont enlevés, et la joie de vivre fait place à une douloureuse affliction. » La libération vient finalement. Le seul don non empoisonné que la terre leur a fait. Et ils disparaissent d'un monde dans lequel ils n'avaient aucune importance, un monde qui les regrettera le temps d'une journée et qui les oubliera pour l'éternité. Par contraste encore, je pense à ce pasteur qui un jour a pris qu'il était atteint d'une maladie incurable qui était dans sa phase terminale. Le dimanche suivant, il partagea ceci avec sa communauté et il lui dit notamment ces quelques mots. J'ai fait 3 kilomètres à pied depuis le bureau du médecin jusqu'à la maison. J'ai regardé la montagne majestueuse que j'aime tant. J'ai regardé la rivière dans laquelle j'aime tant m'amuser. J'ai regardé les arbres majestueux qui sont comme la poésie de Dieu pour mon âme. Le soir venu, j'ai contemplé l'étendue du ciel où Dieu avait allumé ses lampes et j'ai dit, « Je ne te verrai peut-être plus de nombreuses fois, mais montagne, je serai vivant quand tu ne seras plus. » Et rivière, je serai vivant quand tu cesseras de te déverser dans l'océan. Et étoile, je serai vivant quand vous tomberez du ciel lors de la destruction de l'univers. Un regard qui perce l'horizon. Regard de Martin Luther King, ce pasteur baptiste qui a tant fait pour briser les liens d'un véritable racisme sur le continent nord-américain et sur le monument duquel on a gravé ces simples mots « pasteur Martin Luther King Jr., 1929-1968. Enfin libre! Enfin libre! Merci, Dieu Tout-Puissant. Je suis enfin libre. Et puis dans cette galerie de ces hommes qui percent l'horizon, je ne peux m'empêcher de penser à ce célèbre compositeur Handel, un de mes préférés de loin, qui mourut à Londres en 1759 à l'âge de 75 ans. Il était aveugle depuis quelque temps. Et sur son lit de mort, à l'heure de la fin, il demanda à l'un de ses proches, à son service, de lui lire le magnifique psaume 91, dans lequel figurent notamment ces quelques lignes: « Celui qui habite dans la demeure secrète du Très-Haut logera à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit de l'Éternel, il est ma confiance et mon lieu fort. Il est mon Dieu, je me confierai en lui. Parce qu'il a mis mon affection en moi, son affection en moi, je le délivrerai, dit l'Éternel. Je le mettrai en une haute retraite, parce qu'il a connu mon nom. » Et quand la lecture de ce magnifique texte fut achevée, Handel dit: « Oh, que c'est beau. Voilà ma nourriture qui rassasie, qui restaure. Lis-moi donc encore quelque chose. Tiens, prends le chapitre 15 de la première épître de Paul aux Corinthiens, qui est un hymne à la résurrection de Jésus-Christ, prémisse de la résurrection de tous ceux qui l'auront connu et marché avec lui. » Et donc, son ami Jean lut ce que son maître demandait, et plusieurs fois le malade l'interrompit pour lui dire: « Arrête-toi, répète-moi cela encore une fois. » Quelques instants après, il voulut qu'on lui lût dans le recueil de cantiques, le cantique que sa maman aimait tout particulièrement: « Je suis plein d'assurance dans la foi qui m'unit à Jésus-Christ. » Et les dernières paroles de Handel furent: « Seigneur Jésus, reçois mon esprit. » Et si vous avez l'occasion de visiter Londres, ne manquez pas de vous arrêter pour voir son tombeau à l'abbaye de Westminster, où une statue le représente devant son orgue. Il tient dans ses mains un feuillet de musique sur lequel se lisent ces mots: « Je sais que mon Rédempteur est vivant. » Job 19, verset 25. Nous l'avons lu hier soir, nous entrons avec le directeur de chorale, Asaph, psaume 73. Nous entrons dans les sanctuaires de Dieu. Nous interrogeons Dieu, parce que nous l'avons dit, Dieu a une réponse, plusieurs réponses même, au problème de la souffrance. Et il est donc possible de dégager un certain nombre d'affirmations qui vont être autant de réponses à nos pourquoi face à nos situations de souffrance. Mais je l'ai dit, c'est un thème qui cache des pièges. Et loin de moi la pensée de dire que nous avons toutes les réponses à nos questions sur la souffrance. Je m'incline devant la part de mystère dans bien des drames. Je reconnais que tout n'est pas explicable et compréhensible ici-bas et maintenant. Je dois l'admettre. Quelqu'un a écrit très justement: « Nous sommes au pays des pourquoi. » Mais nous allons au pays des parce que. Nous sommes au pays des pourquoi. Et j'ai ici ces remarques d'un croyant: « Regardons la vérité en face, la vie n'est pas juste. L'injustice habite notre monde. Chaque jour, nous sommes confrontés à la puissance des éléments et aux forces fondamentales de notre existence humaine, ces sombres énigmes de la vie. Nous ne pouvons éviter de chercher le pourquoi d'une telle situation. Ce petit mot « pourquoi » n'est pas un torrent de paroles, mais juste une petite goutte de deux syllabes. Il peut pourtant infliger une blessure mortelle à notre âme. La question est inévitable. Elle est normale. Mais c'est vrai que si nous n'avons pas toutes les réponses au pourquoi de la souffrance sur la terre, les réponses de Dieu dans sa parole, ce qu'il nous dit dans la Bible, et qui est confirmé par l'expérience, sont une aide fantastique pour accepter l'inexplicable. Il est de l'inexplicable que j'accepte à cause de l'explicable, à cause de tout ce que Dieu me dit et qui se vérifie. Si je réalisais en avançant avec Dieu que tout ce qu'il m'a dit est mensonge, je ne pourrais pas accepter l'inexplicable. Mais quand je vois la manière dont la présence de Jésus-Christ dans la vie d'une personne terriblement affligée peut transcender sa souffrance, peut modifier un comportement de manière radicale en profondeur, je ne peux que dire, Seigneur, j'accepte l'inexplicable que je ne comprends pas à cause de la beauté de la vérité vérifiée sur le terrain de ce qui est explicable concernant la souffrance. Et tu dis beaucoup, ô Dieu, sur la souffrance dans les Écritures. Une veuve révoltée à la mort de son mari avait ordonné au marbrier de graver un seul mot sur la pierre tombale. Ce petit mot de deux syllabes, pourquoi ? Et pendant des années, elle demeura inconsolable jusqu'au jour où elle découvrit Jésus-Christ. Alors elle retourna voir le sculpteur et lui dit, « Monsieur, ôtez les 8 lettres du mot « pourquoi » et remplacez-les par les 8 lettres du mot « parce que ». Quant au point d'interrogation qu'ils disparaissent définitivement. Et puis, faut-il le dire, ce sera peut-être un des sommets de ce que nous allons partager aujourd'hui. La souffrance est au cœur même de la vie de Dieu. Dieu n'est pas apathique. Ce n'est pas un Dieu insensible. Au loin de là. J'aime le Dieu des Écritures parce qu'il n'est pas insensible. Il n'est pas indifférent. Dieu est un Dieu qui souffre. Il n'est pas lointain. Par rapport aux souffrances humaines, parcourez l'ensemble de l'Ancien Testament et vous serez bouleversés, parce que véritablement, on peut le dire, la Bible est un catalogue des émotions de Dieu à l'égard de l'humanité. Et depuis sa création, Dieu s'est placé dans la situation d'un père inquiet pour ses enfants qu'il a laissés vivre librement. Nous sommes en présence d'un Dieu qui partage la souffrance. Oh, le triomphe aussi, mais bien plus rarement. Mais si souvent la souffrance de son peuple. C'est un Dieu qui entend le cri des captifs en Égypte. C'est un Dieu qui plante sa tente parmi celles des camps du Sinaï aux côtés des Israélites. Ce qui fera dire au prophète Ésaïe, 63:9, toute leur détresse. était pour lui aussi une détresse. Si nous nous penchons sur les messages des prophètes, nous avons le sentiment qu'ils semblent rivaliser dans leur description de la profondeur de l'attachement de Dieu à son peuple. Ce Dieu gémit. C'est un Dieu qui souffre. C'est un Dieu qui rugit. Il souffre dans les livres de Jérémie et d'Osée. Éphraïm, Israël, est-il donc pour moi un fils chéri, un enfant choyé, demande-t-il. Ou encore, car plus je parle de lui, plus encore son souvenir est vivace en moi. Aussi mes entrailles frémissent-elles en sa faveur, j'aurai une profonde compassion pour lui, parole de l'Éternel. Luther, d'ailleurs, le grand réformateur, a traduit une partie de ce texte par cette expression « Mon cœur est brisé ». Dans Osée 11:8, c'est Dieu qui déclare « Mon cœur est bouleversé, toutes mes entrailles s'émeuvent. Pourquoi m'avez-vous abandonné ?» Dans le prophète Ésaïe figure une de ces comparaisons, une de ces métaphores les plus audacieuses qui soient utilisées par un prophète lorsque Dieu est comparé à une femme en travail. « J'ai longtemps gardé le silence, je me tais, je me contient, je gémis comme une femme en travail, je suis haletant et je souffle tout à la fois. Je bénis Dieu parce que c'est un Dieu qui sait ce qu'est la souffrance. Et cette souffrance, alors, s'est exprimée de manière tellement proche de nous dans ce miracle de l'incarnation, quand Dieu s'est fait homme, lorsqu'il est venu, semblable à nous en toutes choses, sauf dans le péché, dans un corps de chair et d'eau. Et qu'il a, sur la terre, partagé les souffrances avec nous. À l'aube de l'incarnation, dans cette naissance, dans une étable, cette fuite en Égypte, puis la vie rude d'un artisan campagnard. Et puis, ces années pendant lesquelles il a parcouru les routes de Palestine pour parler. Les évangiles nous disent qu'il a connu la faim, la soif, la fatigue, l'incompréhension des siens, à l'amour déversé sur les foules et sur les êtres. Il a reçu en retour l'ingratitude, la haine de ceux qu'il dérangeait. On a fini par comploter son arrestation et sa mort. Il a été trahi par l'un de ses disciples, abandonné par tous les autres, livré entre les mains d'une soldatesque cruelle, condamné sur la déposition de faux témoins. On s'est moqué de lui jusque sur la croix, où il a expiré dans d'atroces souffrances. Et alors qu'il était sur le point de mourir, c'est l'un des deux autres crucifiés qui a dû simplement reconnaître « Pour nous, c'est justice, nous recevons ce qu'on méritait de crime. » Mais celui-là, il n'a rien fait de mal. Oui, il est vrai qu'il n'y aura au moins une chose que nous ne pourrons pas dire à Dieu. Ce serait « Tu ne sais pas ce que c'est que souffrir. » Et j'ai sous les yeux cette parole de ce théologien allemand, mais aussi résistant à cause de sa foi, Dietrich Bonhoeffer, qui, dans une de ses lettres écrites en prison avant d'être exécuté par les nazis, écrit ceci: « Il est infiniment plus facile de souffrir par obéissance à un ordre humain que d'accepter la souffrance en tant qu'homme libre et responsable. » Il est infiniment plus facile de souffrir avec d'autres que de souffrir seul. Il est infiniment plus facile de souffrir comme un héros public que de souffrir dans un coin et dans l'ignominie. Il est infiniment plus facile de souffrir une mort physique que d'endurer une souffrance spirituelle. Le Christ a souffert en tant qu'homme libre, seul, dans un coin et dans l'ignominie, dans son corps et son esprit. Et depuis ce jour, beaucoup de chrétiens ont souffert avec lui. Chers amis, c'est qu'à Golgotha, sur la croix qui s'est dressée sur une colline en bordure de Jérusalem, que la souffrance de Dieu a été la plus vive. Parce que c'est là que son amour s'y manifestait parfaitement. Je pense à ce qu'écrit un des spécialistes de la traduction pour les missionnaires, qui évoque les Indiens Miskito du Nicaragua de l'Est et du Honduras, qui dit « Il y a tellement l'âme que l'émotion qui s'en rapproche le plus semble être la douleur. » Au point que, pour une tribu du Mexique, les Totsils, ce merveilleux texte de Jean 3, 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque met sa confiance en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle », eh bien, ce texte se lit dans la traduction pour les Totsils de cette manière. « Dieu souffrait tellement en son cœur qu'il donna son Fils unique. » Le sommet des souffrances incompréhensibles et des souffrances injustes n'est pas le fait des hommes pécheurs et limités que nous sommes. Le sommet des souffrances incompréhensibles et injustes est dans le fait que lui qui n'a pas connu le péché, il est devenu péché à notre place. Il est souffert à notre place. Déjà de son vivant, et ensuite dans la mort sur la croix. Chers amis, nous l'avons déjà sous-entendu, la souffrance est une arme à double tranchant. Elle peut égrayir, mener à la révolte, à l'amertume, à la négation de Dieu. Et nous l'avons lu hier en lisant certains témoignages. Mais cette même souffrance peut aussi ramollir le cœur, peut l'ouvrir à la grâce de Dieu, à sa générosité, et transformer notre vie tout entière. C'est le même soleil qui durcit le ciment et qui va ramollir la cire. À nous de choisir d'être ciment ou cire. Je pense à cette cathédrale en Angleterre dans laquelle on peut admirer un magnifique vitrail composé par un artiste qui s'est servi de morceaux de verre qui avaient été jetés au rebut par un autre artiste. Il y a là comme une parabole de la vie. Il est des gens qui croient en Dieu, qui se confient en Christ, qui sont capables donc de se servir des brisements qu'ils vivent pour en faire quelque chose de beau. Dieu utilise les brisements de leur vie pour présenter au monde de magnifiques vitraux qu'il illumine du soleil, de son amour et de sa sainteté. Mais il en est d'autres, beaucoup trop nombreux, qui ne trouvent rien qui vaille la peine de vivre, qui ne tirent aucune leçon des tragédies de la vie, qui considèrent que toutes les tragédies de la vie et toutes les souffrances sont tout juste bonnes à mettre à la poubelle. À nous de choisir. À nous de choisir sur la base de ce que nous sommes en train de partager depuis hier soir. Et il me reste deux aspects à développer ce matin, pour ne pas nous mettre en retard pour cet après-midi, mais qui sont d'importance capitale, parce qu'ils donnent une des clés, parmi d'autres, mais une des clés essentielles de la souffrance. Parce qu'ils sont la réponse à cette question fondamentale, quelle est l'origine première de la souffrance? Et l'origine première de la souffrance, elle figure dans les premiers chapitres de la Bible, Genèse chapitre 3, récit historique qui n'a rien, lui non plus, d'un mythe, d'une légende, d'une composition poétique, puisque le Seigneur Jésus-Christ lui-même a confirmé qu'il s'agit bien d'un récit. Et si nous refusons, au terme des premiers chapitres de la Bible, cette définition de récit authentique, nous faisons de Jésus-Christ lui-même un menteur, alors que peut-être nous l'admirons par ailleurs pour la beauté de sa vie. Il y aurait là une curieuse contradiction. Eh bien, dans ce terrible chapitre consacré à la chute de l'homme loin de Dieu, à son éloignement, à l'entrée dans un esprit d'indépendance, il est dit au chapitre 3, verset 14, que l'Éternel Dieu se tourne vers le serpent, derrière lequel se cache, dans notre texte, la puissance des ténèbres, le séducteur. Puisque tu as fait cela, tu seras maudit entre tout le bétail, entre tous les animaux des champs, tu marcheras sur ton ventre, tu mangeras de la poussière tous les jours de ta vie. Je mettrai inimitié entre toi et entre la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci t'écrasera la tête et tu lui blesseras le talon. Il dit à la femme, j'augmenterai la souffrance de tes grossesses. Tu enfanteras avec douleur et tes désirs se porteront vers ton mari, mais il dominera sur toi. Il dit à l'homme, puisque tu as écouté la voix de ta femme, que tu as mangé de l'arbre au sujet duquel je t'avais donné cet ordre, tu n'en mangeras point, le sol sera maudit à cause de toi. C'est à force de peine que tu en tireras ta nourriture tous les jours de ta vie. Il te produira des épines et des ronces, et tu mangeras l'herbe des champs. C'est à la sueur de ton visage que tu mangeras du pain jusqu'à ce que tu retournes dans la terre d'où tu as été pris, car tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Voilà l'origine première de la souffrance. C'est la première fois où dans l'histoire du cosmos jaillit ce mot, souffrance. Conséquence d'une rupture de relation entre l'homme et Dieu. Mauvais usage d'une liberté de choix. Transgression d'un commandement de Dieu. Qui va engendrer la malédiction sur le sol, le travail pénible, les problèmes familiaux, le désordre, la mort, la jalousie, le crime. Il suffit de lire ensuite dans les chapitres qui suivent toutes ces conséquences, cette cascade terrifiante de conséquences de cette rupture de relation. Faudrait-il en dresser le tableau pour aujourd'hui ? Oh, j'ai sélectionné simplement quelques exemples. Guerre. La première guerre a commencé tout de suite après. Genèse chapitre 4. Le premier meurtre. Tellement plus près de nous. Guerre 14-18. 10 millions de militaires morts. 13 millions de civils morts, 20 millions et demi de blessés. Et on pourrait continuer, 600 000 invalides, dont 60 000 amputés, plus d'un quart des jeunes entre 18 et 27 ans disparus, déficit des naissances de près de 1 million, pertes matérielles, n'en parlons pas. Guerre 39-45, 78 millions de morts. Et de 1945 à 1980, je ne compte pas les guerres qui se sont succédées et qui font rage à l'heure où nous sommes ici réunis dans la paix. Depuis 1945 et jusqu'à 1980, environ 150 conflits impliquant 80 pays, pour la plupart du tiers-monde, qui ont provoqué environ 25 millions de morts. Soyons un peu plus pointus, des statistiques toutes récentes, liées à la haine, aux idéologies politiques en particulier. Chine, 65 millions de morts. URSS, 25 millions de morts. Cambodge, 2 millions de morts. Corée du Nord, 2 millions de morts. Afghanistan, 1,5 million de morts. Vietnam, 1 million de morts. Yougoslavie, 850 000 morts. Éthiopie, 500 000 morts. Pologne, 150 000 morts. Amérique latine, 150 000 morts. Bulgarie, 50 000 morts. Et nous pourrions continuer la litanie. J'ai sous les yeux les paroles de l'ancien chef tortionnaire dans les prisons communistes roumaines, Turcanu, qui disait aux chrétiens ici, toute amitié et toute camaraderie, toute fraternité par le sang, par la foi cesse d'exister. Nous vous ferons voir et vous torturer les uns les autres. Aucun d'entre vous ne mourra en martyr pour aller au ciel. Nous vous ferons blasphémer Dieu et trahir les croyants avant de mourir, afin d'être sûr que vous irez en enfer. L'évangéliste Jean s'est trompé quand il a dit « Au commencement était le Verbe ». Non, au commencement il y avait la torture. La torture vous fera dire les mots que nous voulons vous faire dire. Je ne crois pas que Dieu créa l'homme, mais s'il l'a fait, il a créé l'homme pour qu'il soit torturé. Il y a 4 ou 5 zones du corps humain dont l'attouchement donne du plaisir. Mais pour la torture, vous pouvez provoquer la douleur de toutes les manières, depuis le fait de lui arracher les cheveux jusqu'à le frapper sous la plante des pieds. Tout le corps a été fait pour souffrir. Et Turcanu sera l'auteur d'un livre de 800 pages exclusivement consacré à la torture. Ça, c'est le résultat de Genèse chapitre 3 aujourd'hui. Et pourtant, voyez-vous, ce qui me bouleverse, c'est que dans ce chaos, au sein même de cette souffrance, nous continuons à avoir des preuves de l'existence de Dieu. C'est Martin Luther King qui écrivait ceci: « Quand l'homme se traîne dans la boue, quelque chose rappelle qu'il est fait pour les étoiles. » Lamartine le dira d'une autre manière: « Borné dans sa nature, infini dans ses vœux, l'homme est un Dieu déchu qui se souvient des cieux. » Je me souviens de mes visites à Madagascar et de la manière dont je pouvais deviner ce qu'avait été l'avenue centrale de Tananarive à l'époque où Tananarive et Madagascar étaient départements français. De magnifiques Champs-Élysées au cœur de cette grande cité, complètement enlaidie par l'avènement du marxisme et la dégradation spirituelle, morale, sociale, économique de ce pays. Bien, on pouvait encore deviner les beautés du passé. Je pense à notre visite il y a quelques années de Beyrouth au Liban. Après 15 années de guerre, ce centre même de Beyrouth, encore écrasé par les bombes. Et pourtant, nous pouvions deviner derrière ces laideurs quelque chose de la beauté passée de cette ville de Beyrouth avant qu'elle soit secouée par ces 15 ou 16 années de guerre. Et ça, c'est extraordinaire. L'homme qui le veut peut voir aujourd'hui, même derrière les laideurs de ce monde, transparaître l'intelligence et la beauté du Créateur. Faut-il encore qu'il veuille en faire l'effort? Oui, la souffrance est une conséquence de l'entrée dans le monde, du virus du péché. Alors vous me dites, mais pourquoi Dieu n'intervient-il pas avec force pour faire cesser la souffrance et le mal? Sa vie serait si facile puisqu'il est si grand. Eh bien, il ne le fait pas pour trois raisons. En tout cas, trois. Tout d'abord, à cause des relations désirées de Dieu avec l'homme. Dieu veut que dans ses relations avec l'homme, ce soit l'amour qui prévale. Et l'amour exclut toute dictature. L'amour exclut toute attitude réduisant l'homme à une marionnette, à un robot. Nous l'avons dit, Dieu n'est pas un despote qui règne par la terreur, par la contrainte violente. Certes, il pourrait abolir arbitrairement la souffrance et le mal, mais alors, il abolirait du même fait toute liberté de choix et d'action. Je pense à cet athée qui blasphémait le nom de Dieu lors d'une réunion en plein air et qui se tourne vers la foule et lui dit « Eh bien, s'il y a un Dieu, je le mets au défi de me frapper à mort au cours des 5 prochaines minutes. » Le silence s'installe pendant que les secondes s'écoulent une à une et au bout de 5 minutes, le moqueur s'écrie sur un ton de raillerie « Et vous voyez, il n'y a pas de Dieu, sinon je serais mort !» Les 5 minutes sont écoulées. Et voilà qu'une vieille dame s'avance et lui dit « Mais, monsieur, avez-vous des enfants ?» Oui, j'ai un fils. Bien, si votre fils vous donnait un couteau et vous demandait de le tuer, le feriez-vous? Oh, madame, certainement pas. Ben, et pourquoi pas? Ben, madame, mais parce que je l'aime trop. Et la vieille dame de s'en aller en lui disant, Dieu vous aime trop. Pour accepter votre défi insensé, il veut vous sauver. Et non vous perdre. Mais il y a une deuxième raison. Si Dieu abolissait toute souffrance dès maintenant, il devrait du même coup aller à la racine de la souffrance que nous venons de situer comme conséquence de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden et qui touche le cœur de tous les hommes. Cela voudrait dire qu'il faudrait supprimer le pécheur. C'est donc son amour et sa miséricorde qui le fait différer son jugement pour que le plus grand nombre d'hommes soient sauvés. C'est ce que dira à la fin du Nouveau Testament la deuxième épître de Pierre. C'est sa patience, son désir de sauver le plus grand nombre. Avant de devoir un jour juger, et je crois que ce jour maintenant est proche, la coupe d'iniquité de ce monde déborde. Mais Dieu est patient. Et il est encore patient aujourd'hui, durant ce week-end. Et puis, troisièmement, en attendant, ce jour du jugement. Dieu se sert de cette souffrance. Même mauvaise. Pour faire du bien. Oui, pour faire du bien. Comme nous allons le voir. La plus belle réponse de Dieu n'est pas dans la répression autoritaire. Dieu continue à aimer jusqu'à ce que l'homme cède et que cet amour devienne comme un baume sur toutes les blessures. C'est ce qui est extraordinaire, comment Dieu est capable de se servir de tout ce qui va de travers pour se révéler au cœur de l'homme, pour le sauver, pour le reconstruire. Et c'est ce qui nous permettra dans 15 jours d'aborder ce triptyque, n'est-ce pas, de la souffrance du croyant qui prend un sens. Précisément à cause de cet amour extraordinaire de Dieu. J'aimerais terminer, et j'aimerais en terminant, parce que nous avons lu en particulier le début de l'Épître aux Romains, j'aimerais rappeler une des lois. Loi biologique, autant que spirituelle, dans cette épître de Paul aux Galates, au chapitre 6 et dans les versets 7 et 8. Galates 6, 7 et 8, ne vous y trompez pas. Ne vous leurrez pas, ne vous égarez pas, ne vous abusez pas. N'essayez pas la méthode Coué pour croire autrement que la vérité. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Celui qui sème pour sa chair moissonnera de la chair la corruption, mais celui qui sème pour l'esprit moissonnera de l'esprit la vie éternelle. La Bible est quand même claire. Et nous devons le dire, même si cela nous est désagréable. Une faute précise peut entraîner une souffrance bien précise. C'est la loi des semailles et des moissons. Le prophète Osée le dira exactement dans les mêmes termes. Il utilisera même, dans la traduction grecque de l'Ancien Testament, le mot « catastrophe ». Si vous semez le vent, vous récolterez la tempête. Et c'est le mot « catastrophe » qui est utilisé. Sachez que votre péché vous atteindra. Mes amis, une multitude de problèmes sur cette terre répondent à cette loi de cause à effet, simplement. Si l'on pouvait supprimer par un coup de baguette magique toutes les souffrances qui sont directement liées au fait de faire quelque chose de mal, mes amis, mais la terre deviendrait déjà un extraordinaire paradis. Vous avez entendu tout à l'heure cette lecture de Romains chapitre 1er. Cette lecture qui évoque notamment le drame de l'homosexualité. J'aimerais simplement vous donner quelques courts extraits d'une enquête très sérieuse dont je viens de prendre connaissance sur les conséquences de l'homosexualité. Non seulement dans le domaine du sida, mais dans d'autres domaines encore. Et je le fais avec tout le respect que je dois à la personne de l'homosexuel, de la lesbienne, qui sont des hommes et des femmes que Dieu aime intensément, mais dont il abhorre le péché. Autant l'amour de Dieu est grand pour l'homme, quel que soit son péché, autant ce Dieu saint hait le péché, quel que soit son caractère. Mais regardez la loi des semailles et des moissons. Et je ne vous livrerai pas les aspects les plus terribles de cette enquête. Pour des raisons de savoir-vivre en public. Le rôle capital joué par les pratiques anales, orales et excrémentaires, totalement antihygiéniques de la communauté homosexuelle, sous prétexte d'activités sexuelles libres, dans la diffusion de l'épidémie du sida est universellement reconnue. Avant même l'apparition du sida, l'Association médicale américaine reconnaissait officiellement que les homosexuels en tant que groupe constituaient un ensemble de la population à risque médical très élevé. On allait même jusqu'à caractériser l'homosexuel comme un véritable nid de maladie. C'est uniquement sous la pression, parfois même très violente, de la communauté homosexuelle américaine que l'Association médicale américaine a révisé son appréciation du danger pathologique des pratiques homosexuelles. Et suit alors une enquête, une étude très détaillée sur les espérances de vie aux USA entre homosexuels et non-homosexuels. C'est impressionnant. Plus loin, un rapport de l'Association médicale américaine indique qu'un adolescent homosexuel a 23 fois plus de risques d'attraper une maladie sexuellement transmissible qu'un adolescent normal. Le fait que l'hépatite B soit une maladie pandémique, c'est-à-dire qui touche pratiquement l'ensemble d'une population, ici chez les homosexuels, est une réalité reconnue par le corps médical depuis fort longtemps. On estime qu'aux États-Unis, 5 à 10% des homosexuels mâles sont porteurs chroniques de cette maladie contagieuse, ce qui est 50 à 100 fois plus que le taux national qui est de 0,1%. Les maladies intestinales chroniques de la population homosexuelle mâle incluent les maladies habituellement trouvées uniquement sous les tropiques, suite une liste impressionnante. Les homosexuels hommes sont couramment porteurs des maladies vénériennes suivantes, la syphilis, l'herpès génital incurable, etc. Ces maladies proviennent essentiellement de pratiques homosexuelles anales et orales, totalement étrangères aux relations sexuelles normales. Et je passe sur les problèmes de criminalité. Pour les lesbiennes, le taux de mortalité par meurtre était de 7,1%, 595 fois plus que celui pour l'ensemble des femmes américaines. Le taux de suicide chez les lesbiennes était de 5,7%, 816 fois plus que celui de l'ensemble des femmes américaines de 25 à 44 ans. Nous ne disons pas cela pour que nous nous élevions avec une haine terrible contre l'homosexuel dans sa personne. Celui qui vole n'est pas meilleur. Mais pour que nous prenions précisément en compte cette réflexion, c'est qu'il existe une loi toute simple, inévitable, incontournable, la loi des semailles et des moissons. Nous récoltons tôt ou tard ce que nous avons semé, que nous en ayons envie ou non. Le problème, c'est que nous ne voyons pas plus loin que le bout de notre nez. Nous vivons à court terme. L'essentiel, c'est le plaisir aujourd'hui, tant pis pour demain. Le carpe diem, cueille le fruit du jour présent. Demain, on s'en fout. Après nous, le déluge. Mangeons, buvons, demain nous mourrons. Oui, mais dans quel état nous mourrons? Maintenant, prudence s'impose. Je ne voudrais pas terminer là-dessus pour nous couper la joie de la communion autour d'un repas. Prudence s'impose. Une épreuve peut traverser la vie d'un homme sans pour autant être en relation avec une faute particulière de sa part. Heureusement, le Seigneur Jésus l'a dit de la manière la plus claire qui soit. Dans Jean, l'évangile selon Jean, le 4e, au chapitre 9, Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance, verset 1er. Ses disciples lui posèrent cette question: « Maître, qui a péché? Cet homme ou ses parents pour qu'il soit né aveugle ?» Jésus répondit: « Ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées. » On le comprend. Parce que les rabbins, à cette époque, allaient même jusqu'à enseigner qu'un enfant pouvait pécher dans le sein de sa mère et subir les conséquences de ce péché prénatal pendant le reste de ses jours. Vous vous rendez compte? Ces fausses culpabilités, disons-le, qui courent aussi les rues aujourd'hui. Qui torturent des cœurs. Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? pour que mon enfant soit frappé. De quoi suis-je coupable? Que de torture dans certains cœurs. Alors que Dieu nous garde de ces jugements rapides qui mettent alors en application la loi de cause à effet là où elle ne doit pas être mise en application. Mais soyons plutôt comme le Seigneur Jésus pour dire ces souffrances tellement injustes, incompréhensibles, inexplicables, vont permettre l'œuvre de Dieu. Vont permettre l'œuvre de Dieu. Et mes bien-aimés, ça c'est le sujet de cet après-midi. Souffrances compréhensibles, imputables à notre folie. Souffrances incompréhensibles. Tout cela va permettre l'œuvre de Dieu. Une œuvre d'amour. Tant que nous sommes sur la terre, parce qu'après c'est trop tard, un jour il y aura œuvre de jugement. Nous voulons prier. Ô Dieu, nous savons que tu nous comprends. Tu n'es pas un théoricien à des millions de lieues de nous, enveloppé dans un nuage rose. Non, tu n'es pas un Dieu insensible, apathique, qui se complairait même à voir les hommes comme des petites fourmis bien loin sur la terre. Non. Merci. Merci pour ta compassion, ton intérêt, ta solidarité, ta profonde sensibilité, tes propres souffrances. Merci pour l'incarnation. Merci pour ta venue en Jésus-Christ dans un corps humain parmi les hommes. Merci pour les souffrances de ton Fils bien-aimé sur la terre pendant ce temps de voyage au milieu des hommes. Merci pour ces souffrances suprêmes sur la croix, pour cet amour qui t'a brisé le cœur au plus haut point. Dans le sacrifice volontaire de ton Fils bien-aimé, pour que tu puisses être appelé mon rédempteur, mon racheteur, mon sauveur, mon pardonneur. Seigneur, j'éprouve le besoin de te demander pardon parce que, après avoir évoqué nos désordres et nos péchés, combien je me rends compte de ma folie, de notre folie. Pardon pour notre corruption. Pardon pour notre cœur insensé. Ô Seigneur, donne-nous un esprit qui regrette fortement, qui se repente, comme dit ton Fils, qui ait soif de changer de direction, de changer de vie. Fais-nous sortir du bourbier, de la vase nauséabonde. Arrache-nous à cela. Tu en as la puissance, tu en as aussi la volonté. Ton Fils est descendu au plus bas sur la terre pour nous élever, pour nous sortir de là. Seigneur, prépare la dernière rencontre de cet après-midi, que cet après-midi soit un sujet de joie et d'allégresse, de chant dans le ciel, que des anges se réjouissent pour ceux et celles qui se tourneront vers toi, pour que leur souffrance soit transfigurée, transformée. Et que nous qui te connaissons déjà, nous soyons encouragés à aller plus loin, quel que soit le prix à payer. Merci Seigneur de mettre ton sceau sur ce que nous avons partagé et de bénir les moments à venir et cette fin de journée. dans le nom du Seigneur Jésus. Amen.